Dans quel monde?
Une émission proposée et animée par Marie-Hélène Bourret et
Alexis Gagnon.
Bonjour, vous êtes de retour à Dans quel monde, animé par
Alexis Gagnon
et Marie-Hélène Bourret. Et aujourd'hui, nous recevons un invité que vous connaissez sans doute pour plusieurs présences dans différentes émissions ici à CILS-FM, François Brassard. Bonjour.
Bonjour, ça va?
Ça va, merci. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, le sujet de Dans quel monde, c'est...
Dans quel monde numéro 3?
Numéro 3, c'est Kinder Morgan. C'est
les... Pas encore Kinder Morgan, Marie-Hélène?
C'est la faute à M. Trudeau qui a refait de nouvelles déclarations la semaine dernière avec une réunion, un town hall qui a eu lieu à Nanaimo. Une assemblée populaire et qui a fait bouillonner là, ce qui restait dans le fond.
Alors, évidemment, le sujet Trans Mountain, le sujet de cet oléoduc qui traverse la province, est revenu sur le tapis. Il est toujours un petit peu en arrière-plan parce que c'est un sujet permanent dans l'actualité.
Oui.
Et là, vraiment, il est revenu à l'avant-plan de l'actualité avec les déclarations du premier ministre qui était en visite sur l'île de Vancouver. Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
Tout de suite après la pause musicale.
À tout de suite.
Nous voilà de retour à Dans quel monde avec Alexis Gagnon, Marie-Hélène Bourret et notre invité d'aujourd'hui, François Brassard. En partant, qu'est-ce que c'est Kinder Morgan? C'est une entreprise spécialisée dans les infrastructures de transport et de stockage dédiées aux hydrocarbures. Donc, le fameux pétrole bitumineux là qui va venir de l'Alberta fait partie de ça.
C'est une pétrolière américaine.
Oui, ils ont des terminaux pétroliers et des oléoducs, des pipelines. Elle a été fondée en 97 après une acquisition d'une filiale de faible taille de Enron. Alors, c'est...
Enron, sulfureux conglomérat absolument qui est tombé en disgrâce au début des années 2000 suite à... des manœuvres
plus ou moins
sur
propre.
Les marchés qui relevaient de la spéculation complètement folle et c'est une entreprise qui a finalement fait faillite.
Oui, parce qu'ils avaient maquillé les bénéfices là,
exact.
Et tout ça. Et puis ils étaient amis, il faut le savoir, avec l'administration Reagan, l'administration Bush, Dick Cheney.
Là, tu parles de Kinder Morgan ou de...
De Enron.
OK, Enron.
Mais c'est ces gens-là qui continuent à...
Disons que la filiation est pas très honorable, mais bon.
C'est ça.
C'est une entreprise qu'on revoit fréquemment dans l'actualité ici en Colombie-Britannique. Pourquoi? Parce que elle souhaite tripler la capacité de son pipeline,
oui.
De son oléoduc qui relie le nord de l'Alberta à la ville de Burnaby en région vancouveroise. Donc, c'est un pipeline qui existe déjà.
Ouais.
Mais Kinder Morgan veut en augmenter la capacité dans un facteur 3. Donc,
ouais.
Ça augmenterait le trafic pétrolier de 700%
c'est ça.
Dans le littoral ici.
Alors, il y a beaucoup d'opposition. On sait régulièrement dans les nouvelles, on le voit partout, à la
radio. On en a beaucoup parlé ici à CLS.
Oui, effectivement, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors maintenant, dans l'actualité dernièrement, on a eu des déclarations de la part de différentes personnes. Par exemple, Mme Notley, la première ministre de l'Alberta.
Oui.
Qui a menacé de représailles économiques, on va aller en cour, monter sur ses grands chevaux.
Pourquoi?
Ben, en fait, parce qu'elle dit que l'Alberta a besoin de ces autorisations-là. Leur façon de vivre, la façon que les gens ont de gagner leur pain le quotidien dépend de cette autorisation-là.
En anglais, ils disent « bring our resources to market ». Donc, apporter nos ressources
au marché.
L'or noir au marché. Et donc, pourquoi a-t-elle réagi récemment? C'est parce que la Colombie-Britannique, au palier provincial, le gouvernement Oregon, ici dans la province, a demandé une étude sur le bitume.
Oui. Donc, un moratoire du développement.
Le triplement de la capacité a commencé, la construction a commencé, n'est-ce pas, Monsieur Brassard?
Oui, c'est vrai.
Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé à Nanaimo? Donc, le premier ministre est venu sur place à Nanaimo, il a tenu une assemblée populaire, il a rencontré une certaine hostilité dans la salle.
Une hostilité certaine.
Et je pense que sa déclaration a été accueillie avec beaucoup de déception.
Colère.
Et de colère, merci. Alors, si vous pouvez parler juste près du micro et nous parler d'abord de Nanaimo et après
on
remontera sur les pouvoirs. Oui.
Ce qui est arrivé, c'est il a dit qu'il allait bâtir de toute façon
l'oléoduc
mais il a rencontré assez bien d'opposition à cela. Et c'était en fait le moratoire que Horgan a institué par un conseil indépendant d'étudier. C'était surtout pour étudier les effets nocifs du diluant
qu'on met dans le
bitume
qui circule dans les pipelines.
Pour le faire passer de par l'oléoduc et sous haute très haute pression et à très haute température, ce qui est très dangereux dans ce sens-là. Mais c'est le bitume c'est le diluant qui est le problème, franchement.
Est-ce que cette demande de la part du premier ministre Horgan pourrait ralentir les projets de Kinder Morgan, sérieusement?
Absolument. Absolument, ça pourrait le prolonger et ça pourrait ça pourrait avoir comme effet de ralentir le nombre de permis qui seront accordés pour la construction ou pour autre chose que les provinces peuvent régler. Mm-hmm. L'exécutif peut régler s'il veut.
Est-ce que le fédéral peut décider, avec les lois constitutionnelles et tout ça, est-ce que le fédéral peut décider d'imposer la construction de ce pipeline-là?
Techniquement, oui, parce que le fédéral a un pouvoir juridique sur tout projet énergétique qui passe les frontières provinciales ou international. Donc, ils ont ce pouvoir. Seulement, ce qui déjà cause un problème pour eux, c'est qu'il y a presque 3 ans que la Cour suprême du Canada a décidé que le gouvernement du Canada doit consulter avec diligence assidue, mot technique ici, toute autre juridiction, soit provinciale, municipale ou communautaire, affecté par des projets énergétiques. Or, et oui, c'est vrai que l'ONU est allée plus loin à cela. C'est pas un droit ici au Canada encore, mais il y a beaucoup d'influence qu'on adopte cela comme certains pays ont fait, en savoir que cette consultation doit démontrer que le projet énergétique n'aura aucun effet nocif quant à l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit et la terre qu'on cultive.
Alors, on peut dire que le fédéral est vraiment un ardent supporter de ce projet de triplement de capacité de pipeline. Stephen Harper était en faveur de ce projet. Justin Trudeau, dans sa campagne électorale,
disait que non, fallait pas.
S'y était opposé, mais par la suite, il a changé d'avis pour se ranger du côté de Kinder Morgan. Pourquoi est-ce que le fédéral est si intéressé à ce que ce projet se réalise?
Parce qu'il y a assez bien de pression de la part de la province d'Alberta pour approuver le projet, soi-disant que c'est nécessaire pour développer leurs ressources, le bitume.
Mm-hmm.
Tant pis pour ce qui arrive ailleurs avec ça. Ils ont besoin de ça, surtout aussi pour les métiers, les jobs.
Oui.
Qui vont être perdus. Ah, c'est ça qu'ils disent.
Oui.
Ben, en fait, il y a même des. Le plus grand syndicat qui représente les travailleurs du domaine du pétrole disent qu'il va y avoir une perte d'emploi dans ces emplois du pétrole-là, en Alberta même.
Exactement.
Alors, on va créer à l'extraction, on va créer quelques emplois pour la construction, mais ce n'est pas des emplois permanents.
Voilà.
Non. Pas du tout.
Ça, c'est un aspect que la députée Elizabeth May,
oui,
chef du Parti vert, a soulevé en Chambre des communes récemment à Ottawa. Donc, le mirage des 15 000 emplois, c'est une vue de l'esprit. C'est un mirage, effectivement.
Ils ne veulent pas admettre que déjà, il y a plus de travail maintenant dans le domaine énergétique
renouvelable.
Oui. Mm.
Dans Alberta et dans tout le Canada.
Mm-hmm.
Il y en a davantage là que dans tous les compagnies énergétiques pétrochimiques.
Ouais, ouais.
Mais est-ce que le fédéral va pouvoir faire passer unilatéralement ce projet de pipeline, selon vous?
C'est risqué de leur part. Quand on sait comment une démocratie travaille, comment ça marche, c'est une question de différentes influences. Et au fond, c'est le peuple qui décide le fait à un moment ou autre, s'il y a une élection. Mais même avant ça, il y a donc d'autres possibilités de tempérer une décision fédérale, à savoir, c'est l'exécutif qui propose ceci. Mais il y a deux autres groupes qui peuvent changer la vue. C'est le législatif. Mais surtout, c'est le juridique. Et déjà, au niveau des communautés, si on prend les Premières Nations, ils vont en cours pour objecter à beaucoup de faits avec la construction de cela sur leur terre, mm-hmm, sur ce que ça fait pour l'eau qui boit, la terre qu'ils utilisent, l'air qu'ils respirent. Justement cela qu'ils mettent en cause et ils vont en cours et ils ont gagné déjà plusieurs cas qu'ils ont monté. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de faire à l'instant.
Alors, c'est là où on parlait de la consultation assidue tantôt.
Oui.
Ils n'ont fait aucune consultation avec les gens des Premières Nations, autre que de les mettre devant le fait accompli.
Oui, okay. Exactement.
Alors, ça, c'était pour le fédéral. Maintenant, le provincial... Qu'est-ce qu'il peut faire, le provincial?
Le provincial a certains pouvoirs. Ils peuvent proposer approuver ou nier, mm-hmm, des permis de construction, ou bien ils peuvent aussi approuver ou nier les permis au sujet de dockage. Ils peuvent aussi...
Donc, sur le port, dans le port même.
Oui, okay. Le port de Burnaby.
Oui, et la municipalité de Burnaby est contre, en fait, là.
Oui, exactement. Donc, ils peuvent tout faire de ce côté-là. Mais, de nouveau, puisque c'est une démocratie, vous avez d'autres groupes qui peuvent opposer cela, et c'est ce qui est arrivé. Et ce n'est pas simplement les Premières Nations, c'est toutes les autres organisations dont l'organisateur dont je fais partie moi-même,
comme Dogwood.
Dogwood, comme
oui,
bénévole,
mm-hmm,
actif.
Mm-hmm.
Et nous sommes forts. Nous avons presque 300 000 supporters.
Oui. Supporters, oui.
Oui, supporters qui sont opposés.
Les donateurs.
Oui, oui, qui sont opposés à ce projet.
Et ça, c'est seulement en Colombie-Britannique.
Seulement en Colombie-Britannique.
Sur une population de combien?
3 millions.
Oui, ouais. Alors c'est énorme.
Et ça, c'est tous des adultes de 18 ans et plus. Là.
Donc, oui, oui, oui. Ouais, oui. Donc. Et en plus, il y a au moins 7 ou 8 autres organisations.
Mm-hmm. Environnementales ou autres.
Environnementales ou autres qui sont opposées à ce projet. Ouais. Et ce sont des gens qui sont très modérés. Mm-hmm. Ce ne sont pas des radicaux
non.
comme on voudrait
nous le faire croire.
À Nanaimo.
Oui, alors... Une grande majorité de la société civile s'oppose à ce projet de triplement de capacité de l'oléoduc Trans Mountain. Un grand nombre de villes se sont déclarées opposées contre ce projet, à commencer par Vancouver, la ville de Gregory Robertson, le maire Robertson, Burnaby, bien sûr, qui est aux premières lignes, là où se trouvent les citernes géantes où sont stockés justement des millions de litres de pétrole. Victoria, notre ville, ouais. La maire Lisa Helps s'est déclarée en opposition à ce projet. Alors pourquoi est-ce que ces villes s'opposent à ce projet? Normalement, les villes veulent que le business fonctionne, qu'il y a des projets économiques. Pourquoi s'opposent-elles à ce projet économique?
Parce que c'est très risqué. Et ce n'est pas une question de s'il y aura une fuite.
C'est quand?
Ben, il y en a toutes les semaines.
Ouais. Oh, depuis 4 ans, oui. Il y a eu 18 000 petites fuites.
Mais quand on parle du pétrole et justement de ce diluant qu'on utilise dans les sables bitumineux pour le faire avancer dans les pipelines, c'est tellement toxique qu'une cuillère à thé peut polluer une source d'eau pendant 1000 ans.
Oui, exactement.
Donc, il n'y a pas de petite fuite, en litre ou en gallon, mais en fait, chaque fuite a un impact environnemental extrêmement important.
Oui, et on pourrait ajouter d'autres choses pour éclairer cette question, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'on veut étudier justement le fait. On sait que ça évapore avec le immédiatement. Mais alors le bitume descend. Or, oui. ils n'ont aucun moyen pour vraiment nettoyer oui. le bitume qui arrive.
Alors, il y a des risques environnementaux importants sur le trajet continental de l'oléoduc, mais les risques se perpétuent aussi.
Ça met en risque beaucoup d'emplois ici en Colombie-Britannique.
Oui, parce qu'on a quand même une économie de tourisme, de chasse voilà. et pêche, d'environnement. Les gens viennent ici pour l'environnement. On sait qu'à Bella Bella, il y a eu une espèce de fuite comme ça, et le fond
minuscule
le fond a été détruit là dans un certain
Exactement.
Endroit. La semaine dernière encore, il y a eu une fuite dont on n'a parlé nulle part, justement dans le même coin où il y avait une espèce de petit poisson qui était justement en fraye, et il y avait des orques qui sont venus dans cette baie-là pour manger. Ils savent quand est la fraye là, donc le pétrole va rentrer ou va tuer ces organismes-là, ces petits poissons, et lorsque les baleines vont arriver, les orques vont arriver, soit elles vont s'empoisonner en mangeant ces poissons qui sont empoisonnés, ou elles vont disparaître, et c'est d'une des espèces qui est extrêmement en danger de disparaître.
Il y en a moins Exactement. De 80 des épaulards ouais, actuellement.
Ouais, ouais.
Monsieur Brassard, on a peut-être, je pense, intérêt à faire un peu de fiction, de d'anticipation. Quelles seraient les conséquences d'un naufrage de l'échelle de l'Exxon Valdez dans la mer des Salish, selon vous?
Ce serait absolument tragique. Le nombre de personnes qui auraient perdu leur travail, d'abord, le nombre de personnes qui seront empoisonnées, soit par l'air, soit par l'eau, soit par ce qu'ils cultivent, sur la Terre, serait en danger.
Et pour ceux qui s'intéressent à l'économie et qui nous parlent toujours d'économie, on peut dire que l'économie...
La Colombie-Britannique, l'intérêt national de la Colombie-Britannique,
Exactement.
De son économie, est en jeu. Là.
Oui.
Oui. Et voilà pourquoi, Horgan a dit, nous avons le droit de protéger la santé de notre peuple, du peuple,
la sécurité,
mais non seulement du peuple, mais aussi de la nature,
oui.
Parce qu'on dépend de cela. Et nous avons un droit de faire cela. Et ça, c'est en première place contre ce que veut faire Alberta.
Mm-hmm.
Parce qu'eux, ils ne voient que simplement les dollars.
Et encore là, il parle de une des de Madame Notley, une des déclarations qu'elle a faites, c'était de dire on a besoin de tout ça pour vendre nos produits. Mais il n'y a plus personne qui en veut.
Ben bientôt, en tout cas, c'est un produit qui appartient au passé. On
oui.
s'entend que
ben,
le monde
en fait,
est en train de faire la transition ouais. énergétique et la... le pétrole est en régression.
Mais la Chine, qui était un acheteur potentiel, vient maintenant de déclarer qu'ils n'en veulent plus parce qu'eux autres, ils veulent nettoyer leur air. On connaît leurs problèmes de pollution.
Oui, parce qu'à l'origine, c'est la Chine qui avait demandé oui. au gouvernement du Canada de bâtir ce...
Ouais,
en fait, d'augmenter la capacité de ces pipelines, peu importe, et, Northern Gateway ou quoi.
Ouais. Et ils ne veulent plus.
Alors, oui, c'est ça. Donc,
il n'y a même plus de marché.
Renversement de situation.
Oui.
Encore une autre... ombre au tableau. Un autre point qui tombe dans l'argumentaire des pro-pipeline. Alors, pour ceux qui sont à Victoria et qui trouvent ça abstrait, ce dont on parle, il faut rappeler que le trafic pétrolier augmenterait devant chez nous
ouais.
de 700%. Donc, des tankers, des pétroliers
ouais.
géants, augmentation de 700% juste devant chez nous, dans un détroit qui
est reconnu comme étant the graveyard of the Pacific.
Bon, tu vois, je n'étais pas au courant de ça.
Le détroit Juan de Fuca est reconnu comme le graveyard of the Pacific, le cimetière du Pacifique, parce que il y a danger, parce qu'il y a des écueils qui sont à surface de l'eau. Il y a des courants extrêmement forts. Il y a des vents extrêmement forts.
Mm.
Donc, c'est un endroit qui est difficile et qui est dangereux.
Oui, en plus, il y a le port de Burnaby. Il
ne
faut pas oublier cela.
Ouais, oui.
Ils veulent, pour l'instant, oui, il y a un oléoduc qui est là.
Oui.
Mais il y a un tanker par semaine ou cinq par mois.
Ouais.
Ils veulent avancer jusqu'à 31 tankers immenses, plus grands que maintenant.
Alors qu'il y ait un incident comme celui qu'il y a sur les côtes de la Chine présentement.
Oui, récemment, oui.
La semaine dernière encore, ou la semaine précédente.
Un fiasco complet.
Environnemental incroyable.
Que la
planète n'a jamais connu, qu'il y en ait seulement un. Et l'économie de la Colombie-Britannique vient de tomber.
Exactement.
Il y a M. Kennedy Stewart, donc Burnaby South, qui a prédit la désobéissance civile si le fédéral continue à pousser.
Il n'est pas le seul à le faire. Plusieurs chefs des Premières Nations ont averti, à l'instar de ce député de Burnaby South, qui représente le NPD dans cette région vancouveroise.
Alors, faut faire attention. La désobéissance civile, ce n'est pas la révolution. La désobéissance civile, c'est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé inique, c'est-à-dire pas gentil, par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique. Alors, le mot est là-dedans. Ça s'oppose à la révolte au sens classique. La révolte classique oppose la violence à la violence. La désobéissance civile est plus subtile. Elle refuse d'être complice d'un pouvoir illégitime et de nourrir ce pouvoir par sa propre coopération.
Oui, et ça nous permet de glisser, grâce à cette précision, Marie-Hélène, vers l'avenir, faire un peu de prospective en terminant, puisque le temps file à vive allure. Que nous réservent les prochains mois? Est-ce qu'on aura des manifestations? Est-ce que la construction de l'oléoduc va se poursuivre malgré tout? Est-ce qu'un choc va se produire entre fédéral et provincial, entre Alberta et Colombie-Britannique?
Est-ce que la Colombie-Britannique va se séparer du Canada?
Non, pas du tout. Absolument pas.
D'accord. Alors, une petite projection.
Ouais. Non, ça ne va pas arriver. Vous parlez de comment est-ce que vous avez dit ça, de
désobéissance civile.
Oui, ça, c'est une approche et ça va arriver, oui.
Mm-hmm.
Mais il y a une autre approche qui est en train de se faire à l'instant.
Mm-hmm.
Il y a des chercheurs qui sont très calmes, très, très intelligents et ils savent. Et Et là, ici, en Colombie-Britannique, mais pas seulement ici, mm-hmm. mais dans le pays aussi, et qui veulent converser avec les politiciens fédéraux.
Faire une espèce de lobbying.
Pour indiquer qu'il y a un autre moyen de résoudre le problème de travail mm-hmm. pour l'Alberta.
Mais qui sont ces gens? Qui sont-ils?
C'est des chercheurs dans beaucoup...
Des chercheurs universitaires?
Oh oui.
Oui, OK.
Et plus. Alors, ils veulent converser pour montrer qu'il y a un autre moyen pour...
Développer l'économie.
De développer avec l'énergie renouvelable.
Ouais,
ça
ouais.
se fait pour l'instant. Il y a des faits, vous en aviez parlé tout à l'heure, mais en fait, la Chine est tellement grand que en ce qu'il fait pour la construction d'auto ouais. et des batteries, mm-hmm. oh, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire ouais. pour l'instant. Je projette que dans cette année, 2018, qu'on va passer l'affaire pour l'utilisation des autos électriques.
Mm-hmm. Les autos électriques vont devenir majoritaires selon vous?
Pas tout de suite, mais...
Moi, ce qui m'a marqué le plus dans toute cette histoire en Nanaimo, c'est que M. Trudeau a dit que oui, on va protéger l'environnement, on a 1,5 milliard de dollars pour le plan de protection des océans. Mais si vous ne faites pas Kinder Morgan, on n'utilisera pas cet argent-là. On n'ira pas avec le projet. Alors, une espèce de menace. Alors, je pense qu'on en revient à la désobéissance civile.
Oui, oui, on va sûrement observer des faits de désobéissance civile oui. dans les prochains mois. Et tu fais très bien de souligner cette déclaration un peu bancale ouais. Sur le plan du raisonnement de Trudeau à Nanaimo qui a mis sur le même pied la réalisation de nos engagements à Paris mm-hmm. et la réalisation du pipeline. Donc, ouais. ce qu'il a dit en substance, c'est on ne pourra pas rencontrer nos engagements pris à Paris en 2015 si on ne fait pas le pipeline.
Ouais.
Alors c'est un raisonnement totalement ouais. bancal et ouais. absurde.
Ouais.
Et beaucoup de gens sur les médias sociaux se sont insurgés et ont ouais. dit ben c'est comme si on disait on va combattre le cancer en fumant davantage.
Ouais.
ouais. Alors effectivement le premier ministre a donné dans la langue orwellienne
ouais.
C'était vraiment digne de 1984 ouais. cette déclaration là voilà donc
alors c'est tout le temps dont on dispose malheureusement. Merci beaucoup François Brassard, je suis sûre qu'on va rediscuter encore, on va vous avoir encore sur l'émission. Merci beaucoup du temps que vous passez avec nous. Alors c'est vraiment tout le temps dont on
oui.
dispose aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine, on passe en onde.
On est toujours en onde le jeudi après le bulletin de l'ONU à 16h10 et le samedi à 11h en reprise. Merci beaucoup de votre écoute.
À la prochaine.